La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien. Aujourd'hui, nous allons parler de fer et de vitalité. Une femme sur trois serait concernée par une carence en fer. Lorsqu'une carence en fer est établie, le premier réflexe est souvent la supplémentation. Pourtant, trouver l'origine de la carence est essentiel. Si un manque de fer dans l'organisme peut être expliqué par un niveau de fer insuffisant dans son alimentation, une malabsorption, des cycles menstruels déséquilibrés ou un régime alimentaire inadapté peuvent aussi en être la cause. Alors parlons-en.
Malika Cécile, pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qu'est une anémie en fer ?
Alors, l'anémie en fer, c'est lorsque le corps manque de fer pour fabriquer l'hémoglobine, cette protéine qui est essentielle dans les globules rouges et qui permet de transporter l'oxygène dans tout l'organisme. Lorsque les niveaux de fer sont insuffisants, le sang n'est plus aussi efficace pour faire circuler l'oxygène, ce qui peut provoquer de la fatigue, des palpitations, des maux de tête, voire des étourdissements. Les femmes enceintes, les adolescentes, les personnes ayant des règles très abondantes sont particulièrement vulnérables à cette carence.
Petit aparté, mais est-ce que l'on parle de la même chose quand on dit carence en fer et anémie ?
Pas tout à fait, effectivement. La différence entre carence en fer et anémie en fer réside dans le degré de gravité de la situation et l'impact sur la santé. Je m'explique. La carence en fer désigne une insuffisance de fer dans l'organisme. À ce stade, la quantité de fer est certes insuffisante pour répondre aux besoins de l'organisme, mais elle n'a pas encore conduit à une diminution du nombre de globules rouges, ni à un problème de circulation de l'oxygène dans le corps. Une carence en fer peut être présente sans symptômes évidents, bien que certaines personnes puissent déjà ressentir de la fatigue, de l'irritabilité, des troubles du sommeil. Il est encore possible de rattraper la carence en fer à ce stade en augmentant l'apport en fer soit par l'alimentation, soit par des suppléments, avant qu'elles ne deviennent plus graves. Quand on parle d'anémie en fer, c'est un stade avancé, où l'insuffisance de fer a conduit à une diminution du nombre de globules rouges, et donc à une altération de leur capacité à transporter l'oxygène en raison d'une production insuffisante d'hémoglobine. L'anémie nécessite généralement une prise en charge médicale plus poussée, incluant souvent des suppléments en fer ou parfois un traitement adapté. En résumé, la carence en fer est une forme précoce du manque de fer qui n'affecte pas encore gravement la fonction des globules rouges, tandis que l'anémie en fer est une forme plus avancée où la capacité du sang à transporter l'oxygène est compromise.
Quels sont les signes visibles d'une anémie en fer ?
Quand les réserves en fer de l'organisme sont épuisées, une anémie due à une carence en fer va se développer. Cela peut entraîner une pâleur de la peau, une fatigue excessive, même certaines personnes décrivent avoir des difficultés de récupération à l'effort, s'essouffler beaucoup plus vite. Les capacités d'apprentissage et la concentration peuvent être altérées également. Lorsqu'elle est sévère, l'anémie peut causer une gêne respiratoire, des vertiges, une augmentation de la fréquence cardiaque. Et parfois, une aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles, peut être observée. En dehors de l'anémie, la carence en fer peut induire des ongles aussi en forme de cuillère, très minces et concaves. Le syndrome des jambes sans repos, avec son besoin irrésistible de bouger les jambes tout le temps, peut être également lié à une carence en fer.
J'imagine que nous n'avons pas tous les mêmes besoins nutritionnels en fer. Peux-tu nous en dire plus ?
Oui. Effectivement, les besoins en fer varient en fonction de plusieurs facteurs, comme l'âge, le sexe, l'état de santé, les besoins spécifiques qui peuvent être liés à la grossesse, à l'allaitement, voire au niveau d'activité physique. Les recommandations générales en termes d'apport en fer sont exprimées en milligrammes par jour en fonction des groupes de population. Par exemple, un enfant de 1 à 13 ans va avoir besoin de 7 à 10 mg par jour. Les filles de 14 à 18 ans, elles vont avoir besoin jusqu'à 15 mg par jour, alors que les garçons sur la même tranche d'âge n'auront besoin que de 11 mg par jour. Une femme adulte, en âge de procréer, donc on va dire 18-50 ans, aura, elle, besoin de 18 mg par jour, c'est-à-dire des apports beaucoup plus élevés qu'un homme du même âge, puisque lui n'aura besoin que de 8 mg par jour. Les femmes enceintes, c'est elles qui ont les besoins les plus élevés, puisqu'elles elles auront besoin de fer pour la croissance du fœtus et des changements corporels. Donc elles ont besoin de 27 mg par jour. Et les femmes allaitantes ont besoin de 10 mg par jour.
Tu as déjà évoqué plusieurs points, mais peux-tu nous résumer les causes d'une carence en fer ?
Alors oui, on peut synthétiser. Donc la carence en fer peut être causée par plusieurs facteurs, qui peuvent aller d'un apport suffisant en fer dans l'alimentation à des problèmes de mauvaise absorption intestinale du fer, ou bien on peut aussi envisager des pertes excessives de fer, peut-être avec des règles hémorragiques, etc. Donc, un apport insuffisant en fer dans l'alimentation. Ça peut être lié à une alimentation déficiente, par exemple des personnes qui ne mangent pas de viande rouge, pas de poisson, pas de légumineuses, donc entendez par là par exemple les lentilles, pas de légumes à feuilles vertes comme les blettes, les épinards, qui consomment peu de céréales riches en fer. Forcément, s'il y a tous ces éléments qui sont absents de l'alimentation, les apports en fer vont être insuffisants et donc ça peut créer une carence. Concernant les pertes en fer, il y a des femmes qui ont des règles extrêmement abondantes ou très très longues. Des fois, les femmes ont des règles pendant 15 jours. Donc, elles vont perdre beaucoup de sang et donc beaucoup de fer. Donc, ça aussi, ça peut amener à une carence, voire une anémie. Par ailleurs, les besoins en fer augmentent pendant la grossesse, on l'a vu tout à l'heure, et l'allaitement. Et très souvent, l'alimentation, elle reste sensiblement la même, même si les besoins sont accrus. Les personnes qui donnent leur sang régulièrement aussi peuvent perdre une quantité importante de fer par ce don. Et donc, il y a besoin de compenser ces pertes. Donc, il faut être vigilant quand on donne régulièrement son sang. Concernant les problèmes d'absorption du fer, certaines maladies gastro-intestinales, comme la maladie cœliaque, la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, l'ulcère gastrique, peuvent interférer dans l'absorption du fer au niveau de l'intestin. En effet, un intestin abîmé ou enflammé absorbe beaucoup moins bien les minéraux comme le fer. De la même manière, quelqu'un qui a un transit accéléré va diminuer le temps de contact du fer avec la paroi intestinale, et donc il y aura moins de temps pour absorber ce minéral. Dans ces cas, traiter la cause de la malabsorption est indispensable pour améliorer le statut nutritionnel en fer sur le long terme. Les interventions chirurgicales, comme la chirurgie bariatrique, qui est destinée à réduire le poids d'une personne, ou bien l'ablation de certaines parties de l'intestin, peuvent aussi réduire l'absorption du fer. Il y a certaines situations, comme on l'a évoqué, où on a des besoins accrus. Les enfants et les adolescents qui connaissent une phase de croissance très rapide peuvent avoir des besoins importants en fer. Les athlètes aussi, en particulier ceux qui pratiquent des sports d'endurance, vont avoir des besoins accrus en fer en raison de la perte par la sueur et la destruction des globules rouges pendant l'effort physique. Donc en résumé, les causes d'une carence en fer sont vraiment multiples et peuvent être liées à un manque d'apport dans l'alimentation, à des pertes excessives ou à des troubles qui peuvent nuire à l'absorption de ce minéral par le corps. Il est donc important de consulter un professionnel de santé pour identifier la cause sous-jacente et adapter le traitement qui sera donné en conséquence. Bien écoutez, je vous propose de faire une pause musicale avec un mantra que j'aime beaucoup, le Ong Namo de Nirijan Kaur, et nous pourrons poursuivre ensuite cette émission. Thank you. C'était le mantra Ong Namo Gurudev Namo chanté par Nirijan Kaur. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent pour la suite de l'émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien. Avec Fab, aujourd'hui, nous parlons de carence en fer et d'anémie.
Malika Cécile, nous avons vu dans la première partie d'émission les causes et les signes d'une carence en fer. Peux-tu nous donner des conseils pour rééquilibrer son alimentation en cas de carence ?
Alors je pense que la première chose à évoquer est le fer héménique versus le fer non héménique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le fer héménique contenu dans les viandes est absorbé jusqu'à 30%. Cependant, il possède un caractère pro-oxydant. En cas d'excès chronique de consommation de viande rouge, la fraction non absorbée va stagner dans le côlon et peut attaquer les membranes des cellules. Et ce serait quelque chose qui peut développer des cancers colorectaux. En face, il y a le fer non héminique, contenu dans les végétaux, qui lui est seulement absorbé à hauteur de 5%. Donc 5% versus 30%, on peut se dire, bon, il y a un problème de rentabilité. On le retrouve dans les légumineuses, les amandes, les noix, les noisettes, les cacahuètes, les céréales complètes, les épinards, pense à Popeye, et les légumes à feuilles vertes. Dans la spiruline, le mûrier jaune, il y a plein de sources alimentaires végétales de fer. Heureusement, il est possible d'améliorer le niveau d'absorption du fer non héminique en consommant des aliments riches en vitamine C en parallèle, puisque la vitamine C va augmenter l'absorption du fer. On pensera donc aux kiwis, aux poivrons, les brocolis, les citrons, les kiwis, les fruits rouges, tout ce qui pourra vous faire plaisir. Autrement dit, donc la vitamine C est connue pour augmenter l'absorption du fer. C'est la raison pour laquelle, généralement, on conseille par exemple d'ajouter du persil frais ou du jus de citron sur une salade de lentilles vertes, qui elle est très riche en fer. Mais il y a quand même des aliments qui, eux, vont avoir l'effet inverse. La théine, caféine, puisque c'est la même molécule, diminue l'absorption du fer. Donc les personnes qui ont déjà des carences en fer, il vaut mieux les éviter en cas d'anémie pour ne pas aggraver la situation. Par ailleurs, si vous voulez prendre une complémentation, une supplémentation en fer juste après avoir bu un café, c'est pas forcément le meilleur choix puisqu'il va y avoir une fuite de fer à cause de ces molécules. Donc dans ce cas-là, vaut mieux différer la prise du complément. Concernant les produits laitiers, et en particulier le calcium qu'ils contiennent, eh bien ce calcium peut également bloquer l'absorption du fer lorsqu'il est consommé en grande quantité ou en même temps que des sources alimentaires en fer. Donc là, pareil, vigilance en fonction de comment vous cuisinez si vous voulez augmenter votre statut en fer. Ainsi, adopter un régime trop pauvre en vitamine C, c'est-à-dire en fruits et légumes, et consommer trop de thé, de café ou de produits laitiers, eh bien cela va desservir l'assimilation du fer alimentaire. Une alimentation équilibrée, riche en fer d'origine végétale ou animale, associée à des habitudes de vie favorisant une bonne absorption du fer, constitue un pilier essentiel de la prévention. Toutefois, il est important de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précis et un suivi adapté, surtout en cas de symptômes persistants ou de déficit sévère.
Concrètement, que faudrait-il manger pour couvrir nos 1 à 2 grammes de fer par jour ?
Oui, c'est vrai que en première partie d'émission, on a vu qu'on avait tous des besoins différents. On va donner une moyenne de 1,5 g de fer pour couvrir un besoin quotidien. Et donc, avec l'alimentation, c'est tout à fait réalisable si on fait des choix alimentaires judicieux. Donc, on va voir quelques exemples de repas, hein, par exemple, pour aider à atteindre cet objectif. Au déjeuner, si vous prenez 100 g de poulet grillé, vous avez 1 mg de fer. C'est pas beaucoup. Si vous prenez une tasse de lentilles cuites, vous avez 6,5 mg de fer. Pardon. Donc là, déjà, il y a un peu plus de fer dans les lentilles que dans le poulet. On en trouve aussi dans le quinoa, à hauteur de 2 mg par demi-tasse, vous voyez, donc c'est pas beaucoup. On en trouve aussi dans le brocoli, et avec ça, vous consommez une orange pour la vitamine C, vous aurez une meilleure absorption. Et avec une journée où vous avez eu ces aliments-là dans l'alimentation, vous avez couvert vos besoins en fer. Un autre exemple, si vous consommez du bœuf, 100 g de bœuf, vous avez 3 mg de fer. Du riz brun avec des épinards, vous arrivez aussi à peu près à 1,5 mg de fer. Vous prenez des graines de sésame dans votre journée et là encore, vous avez couvert vos besoins en fer.
Pour les personnes qui ont besoin d'une complémentation en fer, quelles sont les meilleures formes disponibles sur le marché ?
C'est une très bonne question parce qu'on trouve vraiment de tout sur le marché. Et c'est parfois difficile de trouver le bon complément alimentaire. Donc, concernant les compléments alimentaires de fer, souvent utilisés pour traiter ou prévenir la carence en fer, on va avoir, moi mon préféré, c'est vraiment le fer liposomal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est encapsulé pour protéger le fer et améliorer son absorption au niveau de l'intestin. Et il va aussi beaucoup réduire les effets secondaires comme la constipation. Donc du coup, celui-là, c'est vraiment mon chouchou. Et il faut aussi savoir que quand on prend des comprimés en fer qui sont hautement dosés et de façon très très fréquente, on augmente le risque de développer des infections urinaires. Pourquoi ? Parce que Escherichia coli est ce qu'on appelle sidérophore, c'est-à-dire qu'il adore le fer. Et donc, on risque de le favoriser au niveau bactérien. Et donc, derrière, ça peut créer des déséquilibres. Donc, prendre un fer liposomal, eh bien, il est moins dosé, mais il est plus facilement assimilé par le corps. Donc, on évite beaucoup d'effets secondaires aussi à ce niveau-là. Il y a aussi certains compléments alimentaires qui vont combiner le fer avec d'autres nutriments pour améliorer l'absorption et soutenir les fonctions du corps. Par exemple, donc on va avoir le fer et la vitamine C. Donc, comme on l'a vu plus haut, c'est important. Mais parfois, on va avoir du fer associé à de la vitamine B12 et de la vitamine B9, l'acide folique. Pourquoi ? Parce que ces nutriments, ils sont souvent ajoutés pour les personnes anémiées parce que ça va avoir un rôle dans la production des globules rouges. Donc, on va vraiment aider le corps à reconstituer ces globules rouges avec l'acide folique, la B12 et le fer. Et parfois, on voit aussi le fer associé au cuivre dans certains compléments. Le cuivre, c'est un oligo-élément essentiel qui va lui aussi aider à l'absorption du fer et à la formation des globules rouges. Donc, c'est pour ça que certains compléments le proposent.
Malika Cécile, vois-tu un autre point à évoquer avant de clore cette émission ?
Alors, il est important de considérer pour moi la cause de la carence en fer. S'il s'agit des règles qui sont excessivement abondantes ou très très longues, ou bien si ce sont des troubles intestinaux, etc., c'est vraiment essentiel de traiter la cause première du déséquilibre pour remonter efficacement et durablement le statut en fer de la personne. Donc, je vous conseille de ne pas négliger cet aspect-là et d'en parler avec votre médecin. Si vous avez appris une chose aujourd'hui, c'est que le fer, ce n'est pas seulement pour les super-héros. Nous ne souhaitons pas vous transformer tout le monde en Popeye non plus, mais équilibre, diversité et modération sont les maîtres mots. Si jamais vous vous sentez un peu plus fatigué que d'habitude, n'oubliez pas que ce n'est pas forcément la faute de votre canapé auquel vous êtes resté rivé, mais peut-être un manque de fer dans vos assiettes. Sur ce, on vous laisse à vos légumes verts et à vos bons repas. Et à la prochaine émission de La Panacée, où, espérons-le, vous ne serez pas à court de vitalité. La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux.